France Musique.
Mon cœur est un violon, sur les traces des grandes violonistes.
Marina Chiche, France Musique.
Bonjour, ravie de vous retrouver pour notre série estivale sur France Musique autour des grandes violonistes du passé. Dans l'épisode précédent, je vous parlais des destins tragiques et complexes de plusieurs violonistes pris dans la tourmente de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, j'aimerais mettre à l'honneur deux grandes dames du violon, Erika Morini et Gioconda De Vito. On trouve des points communs dans leur trajectoire de vie, de leur naissance au tout début du XXe siècle à leur disparition dans le milieu des années 1990. Ces deux violonistes ont traversé le siècle et marqué leur temps. Elles ont réussi à s'établir, de leur vivant au moins, comme les égales de leurs collègues masculins. D'ailleurs, elles ont enregistré plusieurs grandes pages concertantes, à la différence de leurs consœurs que je vous faisais entendre dans les épisodes précédents. Ce sont les rares personnalités féminines avec Ginette Neveu à figurer dans certains des livres sur les grands violonistes. Alors commençons par Erika Morini. Nous sommes à Trieste, en 1904. Erika Morgenstern, dit Morini, naît dans une famille juive. Son père est directeur de l'école de musique dans la Vienne impériale. Ses six frères et sœurs font de la musique et de la danse dès le plus jeune âge. La petite Erika fait d'abord preuve de dons précoces comme danseuse, mais elle a une oreille exceptionnelle. La légende raconte que lorsque son papa donnait des cours de violon, elle se cachait derrière les rideaux. Et dès que les élèves faisaient une erreur, elle criait « C'est faux !» et se ruait sur le piano pour jouer d'oreille la bonne note. Erika, âgée de 3 ans, commence l'apprentissage du violon avec son père. À 5 ans déjà, elle joue pour l'empereur d'Autriche, François Joseph, derrière un paravent. Impressionné par ce qu'il entend, l'empereur est bluffé quand il se rend compte qu'il s'agit d'une petite fille, avec un gros nœud dans les cheveux, une robe à col Claudine. Elle est haute comme 3 pommes. Pour la féliciter, il lui offre une poupée de sa taille. Sur France Musique, la sérénade espagnole de Cécile Chaminade, arrangée par Fritz Kreisler, jouée par Erika Morini au violon, Michael Rauchheisen au piano dans un enregistrement de 1926. Après avoir étudié avec son père, Erika Morini rentre dans la classe de l'illustre professeur tchèque Otakar Šefčík au conservatoire de Vienne à 9 ans. Šefčík est célèbre pour ses méthodes et exercices. Erika développe avec lui une technique de main gauche en acier. Pour sa main droite, celle de l'archer, c'est de son père que lui vient sa technique. Le coude tenu assez bas dans la lignée du grand Joseph Joachim. Une belle combinaison. À 12 ans, elle fait ses débuts avec orchestre à Vienne. Très vite, s'en suivent des engagements avec les grands chefs du moment, comme Arthur Nikisch ou Wilhelm Furtwängler. En 1918, à 14 ans, elle fait des débuts retentissants avec le Philharmonique de Berlin, où elle joue un programme impressionnant, Paganini, Mozart, Beethoven et Sarrazade. Elle est perçue comme bien plus qu'une Wunderkind, une enfant prodige. Arthur Nikisch dit d'elle qu'elle est certes une enfant, ein Kind, mais surtout un prodige, ein Wunder. À 16 ans, les portes des États-Unis s'ouvrent. Ses premiers concerts à New York, au Metropolitan Opera House, puis à Carnegie Hall, font sensation. C'est un concert pour lequel elle perçoit d'ailleurs un cachet extraordinairement élevé. À cette occasion, on lui remet le violon de Maud Powell, décédé l'année précédente. Powell, une véritable pionnière et avocate de la cause féminine, avait spécifié dans son testament qu'elle voulait que son violon revienne à la prochaine grande violoniste femme. Le Capriccio Vals d'Henryk Wisniewski par Erika Morini au violon, accompagné au piano par Max Lehner en 1941. Dès 1933, Erika Morini est interdite de concert en Allemagne à cause de ses origines juives. En 1938, elle s'exile alors aux États-Unis avec son mari, un homme d'affaires d'origine américaine. Et en 1943, ils prennent la nationalité américaine. Sur place, elle retrouve d'autres musiciens exilés. Sa solidité technique, notamment, lui attire le respect et l'admiration des autres violonistes. Un illustre collègue la supplie à maintes reprises de lui révéler le secret de son staccato légendaire. Ce collègue n'est autre que Jascha Heifetz. Le violoniste-compositeur d'origine autrichienne, Fritz Kreisler, lui, est sous le charme de l'élégance viennoise qui se dégage du jeu d'Erika Morini. Il dira d'ailleurs « Personne ne joue Kreisler aussi bien que Morini ». Sur France Musique, le Caprice viennois de Fritz Kreisler, interprété par la violoniste Erika Morini, avec Michael Rauchhausen au piano. Un enregistrement de 1952. Erika Morini s'illustre aussi dans les grandes pages du répertoire. Ses chevaux de bataille sont les concertos de Mozart, Beethoven, Bruch, Brahms, Glazounov et Tchaïkovski qu'elle enregistre, mais aussi les concertos de Louis Spohr qu'elle impose dans ses concerts. Les plus grands chefs se l'arrachent, par exemple Bruno Walter ou Georges Sell, avec lequel elle joue plusieurs fois le Beethoven. Les tournées s'enchaînent, Amérique du Sud, Australie, Asie et Israël, où elle est si populaire que deux concerts doivent être rajoutés aux 12 déjà programmés. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire entendre la version de son Tchaïkovski avec le New York Philharmonic sous la direction d'Igor Stravinsky. Une version extraordinaire à la dimension historique. En effet, Stravinsky ne dirigeait presque jamais des œuvres d'autres compositeurs. Il fait là une exception pour ce programme tout Tchaïkovski. Nous sommes le 7 janvier 1940 à Carnegie Hall.
Thank you.
Sur France Musique, le premier mouvement du concerto de Tchaïkovski avec la violoniste Erika Morini, accompagnée par le New York Philharmonic sous la direction d'Igor Stravinsky. En concert le 7 janvier 1940. Une interprétation exceptionnelle du concerto, bien différente de celle que l'on entend d'habitude. Il s'en dégage un grand classicisme. En 1976, à un peu plus de 70 ans, Erika Morini prend sa retraite et ne touche plus son violon. Malgré les nombreuses récompenses et honneurs qu'elle reçoit, elle exprime une certaine amertume face au manque de reconnaissance de la part des managers qui pensaient qu'une femme violoniste ne pouvait pas vraiment être l'égale de ses collègues masculins ou encore moins les surpasser. Erika Morini disait « Personne ne veut des femmes violonistes ». Elle répétait dans ses interviews « Un violoniste est un violoniste. Je veux être jugée comme telle et non comme une femme violoniste ». En plus de son Guadagnini, Erika Morini jouait un Stradivarius acheté par son père dans les années 1920, le Davidoff. Cet instrument est à l'origine d'une des plus grandes affaires non résolues du FBI. En effet, peu avant sa mort, alors qu'Erika Morini est hospitalisée à New York pour un problème cardiaque à 91 ans, son appartement est cambriolé. On lui vole son Stradivarius, ses lettres et œuvres d'art. Pour la préserver, on ne lui dira rien. Le violon n'a toujours pas été retrouvé. Erika Morini a traversé le XXe siècle et marqué les esprits. Le temps est venu de la faire vivre dans nos mémoires pour autre chose que le vol de son violon. Morini n'est pas seulement une grande violoniste, mais elle compte parmi les plus grands violonistes du XXe siècle.
Mon cœur est un violon.
Marina Schiff, France Musique.
Passons à notre deuxième grande violoniste du jour, l'italienne Gioconda De Vito. Née en 1907 à Martina Franca, une petite ville du sud de l'Italie, dans une famille de musiciens, la petite Gioconda démarre l'apprentissage de la musique par la mandoline. À l'âge de 8 ans, elle s'essaye toute seule au violon pendant quelques mois. Ses connaissances en mandoline l'aident car l'instrument est accordé de la même manière que le violon. Son oncle, Francesco, violoniste professionnel en Allemagne et de passage, quand il entend la petite fille jouer un concerto de Charles de Berlioz. Il est stupéfait par son talent. Il lui donne alors quelques cours et Gioconda donne ses premiers concerts.
Madame De Vito, permettez que je vous pose quelques questions. La première est celle-ci. Pouvez-vous nous évoquer quelques souvenirs de votre premier concert?
Oui, j'ai donné mon premier concert à 8 ans. Pour des soldats italiens qui combattaient dans la Première Guerre mondiale. Je me souviens très bien d'avoir joué le 7e concert de Berlioz.
À 11 ans, la jeune fille est envoyée à Pesaro pour étudier avec le violoniste italien Rémi Principe, un professeur renommé. À 16 ans, elle fait ses débuts avec orchestre à Rome, dans le concerto de Tchaïkovski. À 17 ans, elle est nommée professeure au conservatoire de Bari, où elle enseigne pendant 10 ans, tout en poursuivant sa carrière en Italie. C'est en 1932 que les choses vont basculer pour elle au premier concours de Vienne, un des premiers grands concours internationaux. Le jury est très prestigieux. Arnold Rosé, Jan Kubelik, Jeno Hubay, et même la jeune Erika Morini, qui n'a alors que 28 ans. Parmi les lauréats, deux filles de 12 ans, la française Ginette Neveu et l'italienne Wanda Luzzatto se font remarquer. Elles obtiennent le 4e prix ex aequo. Mais Gioconda De Vito, elle, a 25 ans. Elle remporte le premier prix.
C'est en jouant Bach que j'ai gagné mon premier concours international à Vienne. L'année 1932, entre 350 concurrents de tous les pays du monde.
La légende raconte même qu'un membre du jury, le violoniste Jan Kubelik, serait monté sur scène pour lui faire un baise-main après son interprétation de la chaconne de Bach. Thank you. Sur France Musique, la violoniste Gioconda De Vito dans la gigue de la deuxième partita en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, enregistrée en 1959. Dans les années 30, Gioconda De Vito avait joué Bach pour le chef d'orchestre Arturo Toscanini à Paris. Convaincu par la jeune violoniste, il avait simplement dit « c'est ainsi qu'il faut jouer Bach ». Sa victoire au concours de Vienne en 1932 est un tremplin pour sa carrière à l'international. Elle continue toutefois à enseigner. Elle quitte Bari, devient professeure à Palerme, puis à l'Académie Santa Cecilia de Rome. En 1938, elle fait ses débuts avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin dans le 22e concerto de Viotti. Mais avec la Deuxième Guerre mondiale qui commence, le lancement de sa carrière est interrompu à un moment crucial. Ses débuts aux États-Unis, déjà programmés, sont annulés. Après la guerre, Londres est devenue la base d'un nouveau départ pour Gioconda De Vito. En avril 1948, elle fait des débuts remarqués au Royal Albert Hall de Londres avec le concerto pour violon de Brahms, avec Victor de Sabata et le London Philharmonic. Elle enregistre alors pour la maison de disques His Master's Voice. C'est ainsi qu'elle rencontre le producteur David Bicknell, qui devient son mari. Dans les années 50, la carrière de De Vito en Europe atteint son apogée, même si elle est toujours inconnue aux États-Unis où elle ne jouera finalement jamais, malgré les invitations répétées d'Arturo Toscanini et de Charles Munch. Vivant désormais en Angleterre, sa patrie d'adoption, l'Italienne est reconnue comme la première violoniste d'Europe. Lors de grands festivals, elle joue notamment avec ses collègues Yehudi Menuhin et Isaac Stern. Avec Menuhin, il y a une vraie amitié. Ils jouent d'ailleurs ensemble au Festival de basse, concert suivi d'un récital de duo de violon au Royal Festival Hall.
Thank you.
Sur France Musique, le Larghetto du duo pour deux violons opus 67 numéro 3 de Louis Spohr. Un enregistrement de 1955 avec les violonistes Gioconda De Vito et Yehudi Menuhin. Gioconda De Vito suscite l'admiration de ses collègues et noue de belles collaborations. Pourtant, parfois les choses sont moins harmonieuses. Par exemple, en septembre 1948, au Festival d'Edinburgh, elle joue le triple concerto de Beethoven avec le pianiste Arturo Benedetti Michelangeli et le violoncelliste Enrico Mainardi sous la direction du chef allemand Wilhelm Furtwängler. Les approches sont si différentes entre le romantisme chaleureux de De Vito et la précision chirurgicale de Benedetti Michelangeli que le pauvre violoncelliste Mainardi est pris entre deux extrêmes irréconciliables. Du coup, on laisse Furtwängler trancher. De Vito et Furtwängler s'entendent à merveille. Ils jouent le concerto de Brahms ensemble et Furtwängler, très enthousiaste, persuade la violoniste de jouer avec lui la même semaine le Mendelssohn, concerto qu'elle prépare en seulement 3 jours. En 1953, ils partagent un moment musical extraordinaire. Avec Furtwängler au piano, Gioconda De Vito joue la première sonate pour violon en sol majeur de Brahms à Castel Gandolfo à la demande du pape Pie XII. C'est cette sonate en sol majeur que je vous propose d'écouter maintenant dans l'enregistrement qu'elle en fit en 1954 avec le pianiste allemand Edwin Fischer. C'est une trace discographique exceptionnelle. Edwin Fischer, alors très affaibli, dut s'interrompre à plusieurs reprises et l'enregistrement se fit littéralement avec assistance médicale. Pourtant, aucun doute, ce sont là deux grands Brahmsiens qui s'expriment. Thank you. sur France Musique, le premier mouvement de la première sonate de Johannes Brahms avec le pianiste Edwin Fischer et la violoniste Gioconda De Vito, un enregistrement de 1954. En 1957, Gioconda De Vito, profondément religieuse, est à nouveau invitée à jouer par le pape. Cette fois-ci, c'est le concerto de Mendelssohn au Vatican. C'est pendant ce concert qu'elle prend la décision de mettre définitivement un terme à sa carrière. Quand le pape vient la féliciter, elle lui fait part de sa décision. Le souverain pontife, lui-même mélomane et violoniste amateur, l'invite au Vatican 2 jours plus tard pour l'en dissuader. Au cours d'une longue conversation, Pie XII insiste. « Il est trop tôt pour arrêter. Vous devez continuer à nourrir votre talent donné par Dieu. » De Vito prolonge de quelques années sa carrière, mais sa décision est prise. Elle ne veut pas faire le concert de trop. Dans le monde de la musique, au cours de ces années, elle est tenue en haute estime par ses collègues. En 1957, elle est jurée au concours Wieniawski à Poznan. Et en 1958, le violoniste David Oistrakh l'invite au jury du premier concours Tchaïkovski à Moscou. En novembre 1961, la violoniste donne son dernier concert à Bâle avant de se retirer complètement de la scène publique. Elle ne touchera plus un violon jusqu'à sa mort à Rome en 1994, à l'âge de 87 ans. Gioconda De Vito ne possédait pas un grand répertoire. Ses compositeurs favoris étaient les fameux trois grands B, Bach, Beethoven et Brahms.
Bach a été toujours mon compositeur préféré. Après Bach, je préfère Beethoven et Brahms. Et surtout le concert pour grand orchestre qui représente dans la littérature du violon les deux œuvres les plus importantes au point de vue musical. À ce sujet, je me souviens avec émotion que la dernière fois que j'ai interprété le concerto de Brahms avec l'Orchestre symphonique de Torino, c'était sous la direction de l'inoubliable maestro Kurt Wengler.
Le concerto de Brahms, c'était son concerto fétiche, une œuvre dans laquelle s'exprimait la grandeur de son jeu et la rondeur de sa sonorité. Il en existe plusieurs traces discographiques, dont un enregistrement en concert avec Kurt Wengler et d'autres versions en studio. Aujourd'hui, je veux vous faire entendre une version puissante avec le chef d'orchestre Ferenc Fricsay et l'orchestre de la radio berlinoise en 1951. C'est avec le premier mouvement du concerto de Brahms par la violoniste Gioconda De Vito et l'orchestre de la radio berlinoise dirigé par Ferenc Fricsay en 1951 que nous refermons notre épisode consacré à Erika Morini et Gioconda De Vito. Ces deux grandes dames du violon ont traversé le XXe siècle et ont réussi à s'établir comme les égales de leurs collègues masculins. Elles ont enregistré plusieurs grandes pages concertantes. Pourtant, ni l'une ni l'autre n'a enregistré le concerto de Sibelius, une des pages majeures du XXe siècle. Eh bien, dans le prochain épisode, je veux précisément vous faire découvrir une autre grande violoniste qui, elle, a laissé une version culte du Sibelius. Elle est américaine et elle s'appelle Camilla Wicks. Merci à toute l'équipe de l'émission, Françoise Cordet, Valentin Carpentier et Alexandre Billard. Cet épisode est disponible à la réécoute quand vous le souhaitez sur le site de France Musique. Je vous dis à dimanche prochain à 17h.
Mon cœur est un violon.
À réécouter sur francemusique.fr.